Bonsoir et bienvenue, merci d'être à l'écoute de RFI, les 19h en temps universel, 20h à Paris.
Mathis Limano.
Au sommaire, deuxième attaque de missiles des rebelles houthis vers Israël en 3 jours et deuxième attaque depuis le Yémen qui n'est pas interceptée. Dernière en date, c'était hier près de Tel Aviv, 30 blessés. Alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet d'agir avec force et détermination contre les houthis, la presse israélienne s'interroge quant aux défaillances de la défense antiaérienne de l'État hébreu. En Syrie, le ballet des délégations étrangères continue. Aujourd'hui, c'était le chef de la diplomatie turque qui était à Damas. Hakan Fidan a rencontré le nouvel homme fort du pays, Abu Mohammad al-Jolani, et vous l'entendrez, il est apparu avec une cravate, nouveau signe de normalisation. Agir avec force et détermination, la menace aujourd'hui de Benjamin Netanyahou après qu'un missile lancé par les Houthis a fait 30 blessés près de Tel Aviv, l'État hébreu a ouvert une enquête. C'est la deuxième attaque de missile lancée depuis le Yémen par les rebelles et qui touche Israël en l'espace de 3 jours. La presse israélienne s'interroge sur les ratés de la défense antiaérienne. Les explications depuis Jérusalem de Pierre-Olivier.
3 raisons principales expliqueraient l'échec de l'interception du missile. C'est en tout cas ce que croit savoir le quotidien israélien Yediot Aharonot. D'abord, une défaillance technique du système anti-aérien. Aucune des 3 couches qui composent ce dôme protecteur au-dessus d'Israël n'a, semble-t-il, fonctionné. Pourquoi ? C'est la deuxième raison. Selon plusieurs experts, le missile aurait été lancé sur une trajectoire balistique plate, le rendant particulièrement difficile à repérer par les systèmes de défense. Enfin, la trajectoire du missile aurait évolué en cours de route. L'Iran, qui fournit les Houthis, possède des têtes d'ogives manœuvrantes qui permettent de changer au dernier moment la direction de la charge explosive. Couplé à la vitesse du missile d'environ 5000 km/h, l'interception a été rendue presque impossible. La presse locale prévient que cette brèche dans le système anti-aérien doit être colmatée au plus vite et imagine déjà le scénario du pire si ce missile avait été doté d'une ogive nucléaire. Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
Les États-Unis alliés d'Israël n'ont pas tardé à réagir. Des sites militaires houthis frappés hier soir à Sanaa, la capitale yéménite. Et dans ce contexte de guerre régionale, après avoir condamné la cruauté des frappes israéliennes à Gaza, tuant notamment 7 enfants d'une même famille vendredi, le pape François persiste et signe aujourd'hui, provoquant l'agacement de la diplomatie israélienne qui accuse le souverain pontife de 2 poids, 2 mesures. Et malgré les espoirs d'un cessez-le-feu avant la fin de l'année, c'est le souhait formulé par le Hamas et 2 autres factions palestiniennes. La défense civile déplore 28 nouvelles victimes ces dernières 24 heures dans l'enclave. En Syrie, 2 semaines après la chute de Bachar el-Assad, les délégations étrangères, y compris occidentales, se pressent pour se rendre à Damas. Objectif, rencontrer le nouvel homme fort du pays, Abu Mohammad al-Jolani. Et aujourd'hui, alors qu'il accueillait le chef de la diplomatie turque, l'ancien chef d'Al-Qaïda s'est affiché pour la première fois en public avec une cravate. Une manière de se démarquer, en particulier des talibans en Afghanistan. Sur ce sujet, écoutez l'analyse de Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS. Il travaille sur les dynamiques des groupes armés et les oppositions civiles en Syrie.
Jolani a vu aussi le regard de la communauté internationale vis-à-vis de cette nouvelle administration talibane qui finalement n'a pas obtenu énormément de bons retours. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, le Royaume-Uni a rétabli des contacts avec le gouvernement syrien renouvelé là, récemment, en l'espace de, qu'on soit bien clair, 2 semaines. Ils ont mis 2 ans et demi avec les Afghans. Vous voyez? Et donc, je pense que Jolani a compris qu'il fallait, il faut oser dire, s'occidentaliser, pour gagner, en fait, l'oreille de l'Occident. Parce que, pourquoi l'Afghanistan ne se reconstruit pas? Parce que qui a les capitaux de réinvestissement? Certes, les pays du Golfe, qui commencent à réinvestir en Afghanistan, mais en fait, ce sont surtout les pays occidentaux. Et donc, pour Jolani, dans un opportunisme politique qui est vraiment impressionnant, hein, il a compris que cette attitude était nécessaire.
Et lors de cette rencontre avec le nouveau maître de Damas, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a déclaré que les sanctions contre la Syrie doivent être levées dès que possible et que la victoire après la chute de Bachar el-Assad appartient aux Syriens et à personne d'autre. Réponse à l'adresse de Donald Trump qui a qualifié il y a quelques jours la victoire des rebelles de prise de pouvoir inamicale par Ankara. La Turquie, par ailleurs, qui considère qu'il n'y a pas de place pour les Kurdes dans la nouvelle organisation politique syrienne. Pour rappel, le Parti des travailleurs du Kurdistan est considéré comme une organisation terroriste par Ankara. En France, l'annonce d'un gouvernement attendra. Des signaux convergés pourtant vers des nominations dans la soirée après le retour d'Emmanuel Macron à Paris. Le président français s'est entretenu à deux reprises avec François Bayrou, le Premier ministre, en train d'effectuer les derniers réglages, précise son entourage. Rien n'est moins sûr quant à une annonce du gouvernement demain. En effet, ce lundi marque la journée de deuil national pour les victimes du cyclone Chido à Mayotte. En France toujours, elle a été déclarée illégale par la justice il y a 4 jours. C'est la bassine de Sainte-Soline, cette réserve d'eau à destination d'agriculteurs dans l'ouest du pays, dont la construction a été l'objet de nombreuses tensions et manifestations parfois violentes. Mais malgré cette décision de justice, eh bien la bassine continue d'être remplie, Simon Rosé.
Après des mois de contestation et de nombreux recours juridiques, la justice ordonnait mercredi la suspension de 4 projets de retenue d'eau. Des bassines, dont celle de Sainte-Soline, au centre d'affrontements entre opposants et forces de l'ordre il y a 1 an et demi. Au centre des critiques, l'accaparement de la ressource en eau au profit d'une agriculture intensive. C'est cependant au nom de la protection d'une espèce d'oiseau menacée dans la région que les juges ont rendu leur décision. Si les exploitants peuvent utiliser l'eau déjà prélevée, ils devaient également cesser, séance tenante, les prélèvements dans la nappe phréatique pour remplir les méga-bassines. Une injonction qui n'est pas respectée, ce sont nos confrères du journal en ligne Mediapart qui l'ont révélé en allant consulter des données en ligne. Sur le site de l'établissement local public de l'eau, en effet, on s'aperçoit que dès le lendemain de la décision, 10 000 mètres cubes d'eau ont été versés dans la retenue de Sainte-Soline, 12 000 supplémentaires le jour suivant, l'équivalent de 4 piscines olympiques à chaque fois dans l'illégalité. Contactée par nos confrères, la préfecture répond simplement qu'elle fera respecter la décision de justice.
Manifestation massive en Serbie ce dimanche. Des milliers de Serbes réunis à Belgrade, la capitale, pour demander des comptes au gouvernement après l'effondrement du Auvent de la gare de Novi Sad début novembre qui a fait 15 victimes. 15 minutes de silence ont été observées lors du rassemblement. Un mouvement insufflé par les étudiants du pays auxquels se sont joints agriculteurs, personnalités et des Serbes de tout le pays. Ils ont occupé la place Slavia, centre névralgique de Belgrade, bloquant une grande partie du centre-ville. La veille, le président Aleksandar Vučić a affirmé qu'il ne reculerait pas face à la mobilisation. Direction à présent la Belgique, avec cette polémique, celle d'un simple bonjour dans un train. La semaine dernière, on a appris qu'un contrôleur de la SNCB, la compagnie ferroviaire nationale, serait entré dans un wagon et il aurait salué les passagers en néerlandais et en français. Un bonjour, donc, qui n'est pas passé pour un voyageur néerlandophone. Ça s'est passé début octobre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une plainte a été déposée contre le contrôleur. L'histoire peut sembler triviale et quelque peu anecdotique, vue de l'extérieur, mais elle a pourtant beaucoup fait réagir au sein du Royaume. À Bruxelles, les précisions de Jean-Jacques Herry.
En entrant dans un wagon, le chef de bord aurait prononcé ces mots « Goedemorgen, bonjour », saluant les passagers dans les deux langues. Or, à ce moment-là, le train à destination de Bruxelles se trouvait encore en région flamande. « On n'est pas à Bruxelles ici, vous devez seulement utiliser le néerlandais », lui lance alors un passager mécontent qui décidera ensuite de porter plainte auprès de la commission permanente de contrôle linguistique pour non-respect des règles linguistiques dans un transport public. La législation est en effet très tatillonne. À Bruxelles, zone bilingue, les annonces se font en français et en néerlandais, en Wallonie seulement en français et en Flandre uniquement en néerlandais. Le débat a fini par s'inviter jusqu'à la Chambre des députés. Sami Madi, chef des chrétiens démocrates flamands, parfaitement bilingue, au micro de RTL Info.
On dit souvent, oui, si on fait les deux, c'est bien. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On parle français. Si à côté de cela, on n'investit pas dans le néerlandais, qu'on précise qu'il faut apprendre le néerlandais, au final, on parle surtout le français.
De quoi provoquer une petite passe d'armes avec le ministre fédéral de la mobilité, le francophone Georgie Guinet.
Permettez-moi de m'étonner que certains considèrent que c'est la priorité du jour, alors qu'ils ont aussi un gouvernement informé.
Bref, une histoire belge a commenté le journal La Dernière Heure. Un vrai marqueur culturel a renchéri un chroniqueur de la RTBF, la radio publique francophone. Nulle part au monde, un type ne va déposer plainte pour un Goedemorgen bonjour. La SNCB, Société Nationale des Chemins de Fer, a annoncé quant à elle soutenir son employé et plaide pour plus de souplesse dans l'application de la réglementation. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Et puis un mot de football avant de refermer votre journal international. Avalanche de buts en Angleterre, le leader Liverpool a balayé Tottenham 6-3. Beaucoup de buts aussi en Espagne sur la pelouse du Real Madrid. Les coéquipiers de Kylian Mbappé l'ont emporté 4-2 sur Séville. RFI, il est presque 20h10. Ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Tout de suite, retrouvez la deuxième partie de Géopolitique avec Marie-France Chatin. Bonne suite des programmes sur la Radio du Monde.